Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église pour un numéro qui va inaugurer une série d'émissions consacrées aux Pères de l'Église. Qui sont-ils? Que désigne précisément ce terme, cette qualité de Père de l'Église? L'expression nous est connue, mais sait-on vraiment ce qu'elle recouvre? Nous allons essayer de rendre tout cela plus clair avec mon invité, le Père Édouard Divry, docteur en théologie, membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs à Toulouse. Bonjour frère Édouard.
Bonjour Éric, bonjour à tous.
Bienvenue et merci d'avoir accepté de répondre une nouvelle fois à mon invitation. Père de l'Église, voilà donc une expression, un titre que nous connaissons tous. Il y a des noms qui viennent à l'esprit lorsqu'on l'entend. Et pourtant, je pense que bien peu d'entre nous seraient capables de définir avec précision de quoi il retourne. Qu'est-ce qu'un Père de l'Église et quels sont les critères, les conditions à remplir? Je ne sais pas si le terme est très heureux. Les conditions à remplir pour être désigné et reconnu comme tel.
Alors le grand fautif de ce mot « Père », parce que Jésus dit que nul ne doit appeler quelqu'un sur la terre « Père » en dehors du Père des cieux, c'est saint Paul, parce qu'il dit « Je vous ai engendré dans le Christ ». Et donc, le premier à nous avoir engendrés, ce sont les apôtres. Et les pères de l'Église, c'est, si vous voulez, la génération qui vient après la mort des derniers pères qui les ont encore connus, pour certains d'entre eux, et qui se sont éteints, mais qui ont transmis un trésor. Et on considère plus ou moins, si vous voulez, que cette période de semence, où le Saint-Esprit a été très actif, démarre juste après la mort du dernier apôtre et s'achève à peu près au 8e siècle, pour donner un cadre, que ce soit Saint Jean Damascène en Orient, et Bède le Vénérable, ou éventuellement Isidore de Séville un petit peu avant, pour l'Occident. Donc voilà le cadre. Après, qui sont ces pères? Eh bien, on doit considérer que ce sont des auteurs donc, de l'Antiquité chrétienne, et pas d'une autre Antiquité. Par exemple, Philon d'Alexandrie est un juif, il est resté dans le monde juif, je ne le considère pas comme un père de l'Église, même si il a eu une grosse influence sur les auteurs, surtout dans le rayon d'Alexandrie, de la grande métropole chrétienne d'Alexandrie. Il doit être donc antique, orthodoxe, orthodoxe au sens étymologique du terme et non pas au sens journalistique, c'est-à-dire qu'il y a une doctrine droite, une doctrine conforme à l'enseignement des apôtres, et saint, c'est-à-dire il faut que sa vie soit conforme à ce qu'il a enseigné, pas seulement quelqu'un qui fait des paroles et puis qu'on se découvre après, en creusant dans les récits que cette personne a eu des déviances morales, voyez. Alors du coup, il est nécessairement exclu s'il y a eu
donc
des déviances
morales. Donc
il faut
avoir mené une sainte vie.
Une vie sainte,
et que ses actes aient été
en accord avec ce qu'il a enseigné. Et j'ajouterais moi-même, et c'est de mon propre cru, qu'il a été influent. Parce qu'il y a des auteurs qui sont antiques, orthodoxes, saints, ils appartiennent à l'ère de la patrologie, mais ils ne sont pratiquement pas cités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été influents. Donc il faut rajouter ce critère qui est plus, évidemment, sensible à ce que l'histoire de l'Église a reçu d'eux et qui a fait qu'il y a eu une transmission de leurs écrits. Certains, probablement, étaient déjà des gens antiques, orthodoxes et saints, mais n'ont pas bénéficié, si vous voulez, on les a retrouvés un peu après, et puis ils n'ont pas eu donc une influence déterminante, voilà.
Le père Henri de Lubac, grand théologien catholique, les appelle aussi nos pères dans la foi. Est-ce que cette expression vous paraît convenir à ce qu'ont été les pères de l'Église?
Oui, tout à fait, parce qu'ils ont permis, si vous voulez, de définir des points de contestation, des points d'interrogation. Ils ont écrit les premiers rudiments, les premières distinctions utiles à l'expression de la foi. La foi, bien sûr, est un don de Dieu. D'abord, c'est la fidesse qui est donné à tout chrétien, qui est donné par le baptême. Et vous vous souvenez ce que disait saint Thomas d'Aquin, la petite vieille souvent peut avoir plus de foi que le grand théologien. Mais je parle de la fidesse, donc quoi dans ce qu'elle a d'objectif, comme dans le credo. Par exemple, le credo est une manifestation de la foi et demande donc une articulation des expressions qui demande donc un travail. Et c'est ce qu'ont fait les pères de l'Église, pères de la foi, dans le sens où ce n'est pas la fides quae de la petite vieille, mais la fides quae qui s'exprime d'une manière, je dirais, enveloppante et qui permet, comme saint Paul dans l'Épître aux Romains, par exemple, au chapitre 15, ou au premier Épître aux Corinthiens, chapitre 15, où il dit ce que je crois finalement, Jésus est mort et ressuscité, il est apparu aux apôtres, et moi le dernier avorton, Corinthiens 15. Donc vous voyez, il y a dans les expressions des pères quelque chose qui va être cohérent avec l'ensemble de ce qui a été donné depuis les évangiles. C'est ça qui va les caractériser.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'ils ont posé les fondations de la théologie chrétienne, les premières pierres, pierres sur lesquelles nous nous appuyons encore aujourd'hui ?
Alors tout à fait, et je vous propose d'entendre ce que avait dit une relation fort intelligente de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était donc qui a inspiré le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Patres Ecclésiae pour le 16e centenaire de la mort de Saint Basile, le 2 janvier 1980. Voilà ce qu'il disait. Les pères sont pour ainsi dire une structure stable de l'Église et y accomplissent à travers les siècles une fonction ininterrompue. Donc soulignez bien ininterrompue. C'est ainsi que toute annonce de l'Évangile et tout magistère ensuite, pour pouvoir être authentique, doivent être comparés à leur annonce et à leur magistère. Tout charisme et tout ministère doivent puiser à la source vive de leur paternité, toute pierre nouvelle qui s'ajoute à l'édifice, qui s'accroît et s'étend chaque jour, doit se situer dans la structure qu'ils ont posée et se souder à elle. Vous voyez, c'est un peu comme une pierre miliaire ou une pierre de fond dans un édifice qui permet de stabiliser l'ensemble de l'édifice qui croît. Il faut voir plutôt, d'ailleurs, un édifice vivant, puisque nous sommes des pierres vivantes, comme dit saint Pierre.
Il y a aussi des docteurs de l'Église. Quelle est la différence entre un docteur de l'Église et un père de l'Église ? Est-ce qu'on peut être l'un et l'autre, d'ailleurs ?
Alors, oui, on peut être tout à fait l'un et l'autre. Alors, c'est une expression, si vous voulez, docteur de l'Église, qui est apparue un petit peu plus tard par rapport à l'expression, père de l'Église. Pourquoi ? Tout simplement parce que certains ont laissé des traces tout à fait éminentes, mais n'ont pas donné, si vous voulez, un enseignement, je dirais, aussi détaillé. Et je pense par exemple à saint Léon le Grand, qui est un pape extrêmement important, mais qui n'a fait que donner sa fameuse lettre à Flavien, qui a été déterminante pour le concile de Chalcédoine, et puis quelques sermons. Mais on n'en fait pas un docteur, parce que, si vous voulez, il ne prend pas suffisamment d'espace dans l'histoire de l'Église pour que on puisse lui donner le titre de docteur. Pour donner le titre de docteur, il faut vraiment une consistance, vous voulez, qui permette d'étendre une doctrine, je dirais, plus substantielle. Et les premiers qui ont été donc désignés comme pères de l'Église, eh bien, il y a eu tout d'abord les pères occidentaux qui ont été donnés donc à l'époque de la haute scolastique par Boniface VIII, donc au XIVe siècle, Ambroise, Jérôme, Augustin, Grégoire le Grand, qui ont été considérés comme les quatre grands docteurs occidentaux,
père de l'Église latine,
père de l'Église et docteur et d'Occident. Et très vite, au moment du Concile de Trente, notre cher saint Pie V a trouvé qu'il fallait aussi donner un pendant aux pères de l'Église d'Orient, et leur a attribué le titre de docteur, donc à Athanase, Basile, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome, donc en 1568. Voilà les deux grands, si vous voulez, sources de ce titre de docteur qui s'ajoutent au titre de père. Mais bien sûr, ça n'a pas empêché après les papes successifs de vouloir ajouter d'autres docteurs à ces listes, par exemple des docteurs orientaux comme Éphrem en 1920, Cyril de Jérusalem en 1882, Cyril d'Alexandrie en 1882 aussi, Jean Damascène en 1890, tout ça c'est le grand pape Léon XIII, vous reconnaissez les dates. Et il y a Grégoire de Narek, donc, qui est une originalité du pape François, puisque en 2015, il l'a donné aussi comme père et docteur de l'Église d'Orient, mais à une période où Grégoire de Narek n'était pas dans une église en communion totale avec le siège pétrinien. Et donc, du coup, rend un peu ce cas particulier. Mais nous pourrons y revenir.
Oui, nous allons y revenir parce qu'on va rentrer un peu plus dans le détail. Notamment, il y a des périodes de pères de l'Église. J'en reviens à ma question suivante, c'était est-ce qu'il existe une liste officielle des pères de l'Église établie par l'Église ou par les Églises? Parce qu'il y a des pères qui sont reconnus par certaines Églises, d'Orient par exemple, et qui ne le sont pas par l'Église catholique romaine.
Alors, non, il n'y a pas de liste officielle pour la bonne raison que, évidemment, chaque Église a évolué avec le temps et chacun a eu ses propres références. L'Église d'Occident a eu ses références, l'Église d'Orient a eu les siennes, et évidemment, cela donne des images assez différentes. Prenons une église syrienne, par exemple, qui veut mettre en avant les apôtres qui ont eu une importance en Syrie et dans cette région, avec Mar Jacob, Mar Philippus, Mar Andreas, qui sont, je les prononce à la mode syrienne, Saint André, Saint Jacques et Saint Philippe, qui vont être au centre de leur, je dirais, fondement apostolique. Et puis, ils vont voir à l'ouest Paulus, Jacob et Petrus, hein, qui vont être à l'Occident les pères apôtres, si vous voulez, de l'Occident. Alors qu'à l'Orient, ben, vous aurez Nathanaël, Thaddée, Thomas, qui vont avoir leur influence. Et donc, chacun va avoir déjà ses apôtres qui vont être privilégiés. Et donc, la descendance, évidemment, va être marquée dans la patrologie selon ses références de base apostoliques. Parce qu'il y a eu 12 apôtres, et ces 12 apôtres donc, se sont répartis selon les aires géographiques. Ce qui va les distinguer, ce sont donc les aires géographiques. L'aire du Proche-Orient, l'aire de l'Orient plus lointain jusqu'à l'Inde avec Thomas l'apôtre, et puis l'aire occidentale qui démarre, si vous voulez, avec la Grèce et qui arrive jusqu'à Rome et qui va jusqu'en Gaule. Et donc, la liste des pères, ben, vous pouvez la trouver, par exemple, chez notre cher Benoît XVI, émérite défunt, qui nous a laissé des livres sur des catéchèses sur les pères de l'Église. Il commence par Saint Clément, évêque de Rome. C'est normal, c'est un latin, donc il commence par un père latin tout à fait caractéristique de l'ère latine. Puis il va à Ignace d'Antioche, qui est mort en Orient, un petit peu plus tardif, Saint Justin, qui est aussi un père de l'Orient, de Naplouse, même s'il a vécu aussi à Rome, Irénée de Lyon, qui a achevé sa vie chez nous en France, Clément d'Alexandrie, qui a vécu en Alexandrie, Origène, qui est un écrivain ecclésiastique, qui n'est pas considéré comme un père de l'Église, hein, nous pourrons reprendre
on en parlera d'Origène.
Cette chose, Tertullien aussi, qui lui est un occidental, qui a vécu en Afrique du Nord, et qui, lui aussi, est comme Origène, un écrivain ecclésiastique sans être un père de l'Église, mais qui appartient aux grandes collections de patrologie. Car la patrologie, si vous voulez, c'est plus large que seulement avoir le titre de père de l'Église. C'est ça qu'il faudra comprendre. Saint Cyprien, qui est aussi d'Afrique du Nord, Eusèbe de Césarée, qui a vécu au nord de la Palestine, Saint Athanase d'Alexandrie, Cyril de Jérusalem, Basile, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, qui sont les pères cappadociens, donc qui sont actuellement dans l'est de la Turquie, un peu au nord de Tars, la ville de Saint Paul. Et puis, vous avez Jean Chrysostome, qui a été évêque à Constantinople, Cyril d'Alexandrie, on retourne à Alexandrie, Hilaire de Poitiers, on trouve de nouveau un père de notre pays, puisque après Irénée de Lyon, on trouve Saint-Hilaire de Poitiers. Et puis, il a continué les enseignements avec tous ces grands témoins de la foi chrétienne, et il s'est arrêté longtemps sur Saint-Augustin, évidemment, qui était le saint par excellence de référence pour le pape Benoît XVI.
Alors, durant la seconde partie de l'émission, on va rentrer dans ce détail, dans toutes ces périodes, ces familles de pères de l'Église, je ne sais pas trop comment il faut les appeler. Juste un point pour finir, ce tableau général, est-ce que pour être père de l'Église, il faut être vraiment approuvé sur la totalité de la doctrine qu'on a développée, ou est-ce que sur certains points, même si on n'est pas tout à fait, excusez-moi l'expression, dans les clous demandés par l'Église, on peut tout de même être reconnu père de l'Église?
Alors oui, tout simplement parce qu'il ne faut pas imaginer quelque chose de statique, mais quelque chose de beaucoup plus complet. Je prends l'image donc d'un entonnoir avec plusieurs filtres. Donc il y a ceux qui sont les plus anciens qui sont en haut de l'entonnoir. Et puis à mesure qu'il y a des filtres, eh bien évidemment, on va considérer les choses d'une autre manière une fois que le filtre a été posé. Quels sont ces filtres ? Ce sont les conciles œcuméniques. 325.
Ce sont les marqueurs. En
fait. Les marqueurs. Et qui va faire, si vous voulez, que ce qui est au-dessus du premier filtre, on va être assez large. Pourquoi ? Parce que, justement, ils n'ont pas encore été rectifiés par le magistère de Nicée en 325. On pourra dire deux, par exemple. Il parlait avec négligence, dit un texte d'un grand spécialiste historique, parce qu'aucun ennemi n'était présent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore affronté des situations d'hérésie, par exemple. Et donc, ils vont parler d'une manière un peu spontanée, sans avoir nécessairement rectifié toute chose. Donc, je ne peux pas les regarder de la même manière que ceux qui sont après le premier filtre, qui est Nicée. Puis vous avez un autre grand filtre, c'est Éphèse. Constantinople I sera reconnu avec Chalcédoine en 451. C'est le troisième et grand filtre qui permet de discerner les textes. Mais ceux qui sont avant ces filtres, eh ben, ont beaucoup plus de liberté et donc on les considère quand même comme des pères de l'Église, même si leur enseignement n'est pas tout à fait conforme avec ce qui a été déterminé au cours des conciles.
Peut-être qu'une comparaison aidera à comprendre ceux qui nous écoutent. C'est un peu comme lorsqu'on dit aujourd'hui, on ne peut pas juger les comportements d'avant avec la morale d'aujourd'hui. C'est un peu la même chose.
Oui, exactement. Mais en même temps, avec la grosse différence, c'est que nous pensons qu'il y a une stabilité dans la doctrine depuis les origines, sauf qu'elle n'a pas été entièrement explicitée. Il ne peut pas y avoir de variation de doctrine. Et il y a une formule, si vous voulez...
Mais il peut y avoir une méconnaissance à une certaine époque.
Alors, il peut y avoir une méconnaissance à une certaine époque. Voilà ce qu'on disait, ce qui partout ubique, ce qui toujours et ce qui par tous a été cru. Voilà quelle était la formule. Mais évidemment, avec l'histoire de l'entonnoir à plusieurs filtres, on ne va pas retrouver cette formule adéquate à chaque niveau. Elle est vraie seulement à chaque niveau, elle n'est pas vraie globalement. Par contre, ce que le Concile Vatican I a dit avec beaucoup de sagesse en reprenant un des premiers qui a médité sur les pères de l'Église, c'est Vincent de Lérins. C'est aussi un de chez nous, donc c'est quand même sympathique de voir que le premier qui a réfléchi sur ce que disent les pères de l'Église, c'est Saint Vincent de Lérins, qui est un contemporain de Léon le Grand dont je parlais tout à l'heure. Il dit qu'il faut qu'il y ait la science, la sagesse, mais exclusivement dans leur ordre, dans la même croyance, dans le même sens et dans la même pensée. Voilà ce qui a été retenu par Vatican I.
Et ça, c'était, rappelez l'époque.
Donc, au 5e siècle.
5e siècle. Avant d'aller plus loin et plus dans le détail de cette histoire des pères de l'Église et de ce que chacun d'entre eux a apporté à la théologie chrétienne, nous allons nous accorder une pause en musique en cette année du centenaire de la mort de Gabriel Fauré. Je propose de la faire en écoutant son célèbre et magnifique Requiem, dont voici le Sanctus. C'est une version de l'Orchestre National du Capitole dirigée par Michel Plasson.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici à l'antenne et je suis toujours en compagnie du père Édouard d'Ivry, frère dominicain à Toulouse, docteur en théologie. Nous allons poursuivre cette émission consacrée au père de l'Église. Je reviens à ce dont nous parlions avant la pause musicale. Quelles sont les familles ou les groupes de pères de l'Église à travers l'histoire ?
Donc ces groupes vont être essentiellement des familles par aire géographique. On considérera par exemple la métropole d'Alexandrie, on ne disait pas encore patriarcat. Les patriarcats n'apparaîtront qu'avec Justinien au VIe siècle, donc c'est une expression extrêmement tardive de l'histoire. On dit des métropoles. Quelles étaient les grandes métropoles ? Vous aviez Alexandrie, Antioche, Rome. Jérusalem, malheureusement, n'était pas une métropole, je dirais, aussi caractéristique. Elle ne l'est redevenue que tardivement, pour la bonne raison que Jérusalem a été détruite par les armées romaines en 135-136 par Adrien. Il a passé la charrue sur le sommet de Jérusalem, là où était le temple. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu une disparition totale de l'importance de Jérusalem pendant des décennies. Ce n'est qu'à partir de Constantin, de Sainte-Hélène, qu'il y a pu y avoir une résurrection, en quelque sorte, de Jérusalem. Mais en attendant, les grands sièges étaient les métropoles où le christianisme avait diffusé, donc Alexandrie, Antioche, Rome et aussi, on peut dire, l'Afrique du Nord qui a eu un rôle important. Alors, côté, je dirais, Alexandrie, qui, selon la tradition, a été évangélisée par Saint Marc, qui était le secrétaire de Saint Pierre, eh bien, il y a eu une influence donc, tout à fait déterminante, avec une école que l'on a appelée l'école de ses premiers pères de la période apostolique. Alors qu'est-ce qu'on dit les pères apostoliques ? On dit que ce sont ceux qui ont encore connu
les apôtres.
Et vous avez par exemple Saint Ignace d'Antioche, ben, c'est un père apostolique. Et donc c'est la toute première période avec ceux qui ont pu entendre quelque chose de ses pères. Et puis après, ils sont déjà répartis en aires géographiques. Ignace d'Antioche, bah, c'est le patriarcat, ce qu'on appellera plus tard le patriarcat d'Antioche. Vous avez Justin le martyr qui est mort à Rome, donc ça va être Rome. Vous voyez, donc ils sont déjà un peu attachés à l'aire géographique, même si dans les premiers temps, tout le monde écrit en grec. Pourquoi ? Parce que c'est la koiné, c'est la langue générale de l'Empire romain, le latin étant réservé à l'élite intellectuelle et juridique surtout. Les premiers conciles vont tous être traduits en latin, faisant force de loi dans les écrits définitifs, parce qu'une loi devait finalement être traduite en latin, parce que c'est celle qui était la langue des empereurs. Et c'était important de garder le latin. Mais au début, c'est essentiellement la langue commune par laquelle on se transmet les choses et les enseignements. Donc c'est le grec qui domine, Justin, Tatien, Athénagore, Méliton de Sardes, Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Clément d'Alexandrie, tous écrivent en grec. Donc les familles vont d'abord être un peu réparties de cette manière-là selon leur origine apostolique, puis par aire géographique, et il y aura donc en Alexandrie, eh bien, Clément d'Alexandrie, Origène, qui vont être assez caractéristiques, si vous voulez, de cette école plus marquée par l'allégorie, alors qu'à Antioche, il y aura davantage un souci de proximité avec le sens littéral, le sens historique. Et Lucien d'Antioche va marquer tout un courant donc, assez caractéristique de ses pères qui viennent de cette zone géographique d'Antioche et qui va petit à petit développer une manière d'interpréter les textes plus anciens et l'écriture. Et puis vous avez donc l'école romaine avec la référence au pape, évidemment, qui va être important, puisque on considère toujours que c'est le successeur de Pierre. Et Pierre a un rôle spécial parmi les douze. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, dit Jésus en Matthieu 16, 16, et cela reste dans la mémoire collective. C'est-à-dire que quand on a un différent, on va très vite se dire, ben, qu'est-ce qu'en dit le successeur de Pierre ? Et de fait, Clément de Rome, quand il intervient à propos de disputes sur ce qui se passe à Corinthe, ben, prend le dessus et on sent qu'il est écouté comme quasiment un apôtre. Les lettres de Clément de Rome étaient lues à titre égal que les lettres de saint Paul lui-même, c'est extraordinaire. Alors, il ne fait pas partie du canon, bien sûr, des Écritures, mais ça tangente, si vous voulez, le canon des Écritures, et il y a une très très grande autorité de ces lettres qui arrivent donc de Rome. Et puis, vous avez l'école d'Afrique du Nord qui est importante, puisque vous avez Tertullien qui est par excellence le premier grand penseur occidental qui réfléchit sur les Écritures et qui est un peu le pendant d'Origène dans l'école d'Alexandrie et qui va avoir les premières formules les plus déterminantes pour l'histoire de la théologie. C'est lui qui invente par exemple le mot « Trinité » ou qui parle de Jésus, une personne en deux natures, qui est déjà le concile de Chalcédoine. Donc c'est le théologien le plus génial qui existe et le précurseur un peu de toute la grande tradition occidentale. Derrière lui, il y a Cyprien de Carthage et notre grand saint Augustin qui est dépendant de saint Cyprien. Donc c'est une veine considérable que cette église d'Afrique du Nord. Et puis vous avez l'école de Gaulle, avec, on les a cités rapidement tout à l'heure, Irénée de Lyon, qu'on va retrouver un peu tardivement, qui aurait été un peu oublié, enfoui, mais cité un peu partout dans le monde méditerranéen, jusque les Arméniens qui ont conservé des écrits de saint Irénée, qui les ont traduits en arménien, qu'on a pu redécouvrir la démonstration apostolique grâce aux Arméniens. Donc, vous voyez, ces écrits n'étaient pas statiques, ne restaient pas dans une zone géographique précise, ils circulaient, on les reconnaissait comme étant valables, comme étant celles des pères de l'origine, des pères de la foi, comme vous aviez dit tout à l'heure, qui nous ont transmis cette foi chrétienne. Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, là c'est l'école romaine, et vous avez donc Hilaire de Poitiers qui est plus tardif, mais qui marque aussi notre grande tradition, je dirais, occidentale. Pour donner les dates d'Hilaire de Poitiers, 356 à...
Donc c'est un père du IVe siècle.
Un père du IVe siècle, 367, 368. Donc ces pères marquent l'histoire de l'Église, évidemment, avec les problématiques donc, de ces hérésies qui apparaissent au fur et à mesure. Et chaque grand concile va être l'occasion de lutter contre telle ou telle hérésie.
Vous avez parlé d'un classement qu'on peut faire des pères de l'Église par zone géographique. Mais il y en a un autre qu'on peut utiliser, et vous y avez fait allusion en première partie d'émission, c'est par des repères temporels, si on peut dire, notamment les conciles. Le concile de Nicée en 325, le concile de Chalcédoine en 451.
Exactement.
Et donc, il y a des classements qui peuvent se faire, les pères anténicéens avant le concile de Nicée.
Et vous dites très bien, les pères anténicéens, qui ne sont pas contre, mais anté, ça veut dire avant, voilà, anténicéens, et qui ont cette plus grande liberté, comme on disait tout à l'heure dans leurs écrits, parce qu'ils n'ont pas encore le filtre du concile de Nicée, qui, lui, va lutter contre l'arianisme. Et Arius est un prêtre de l'église d'Alexandrie. C'est un peu un fils spirituel de cette école d'origine, mais qu'il va durcir et qui va rendre ses écrits absolument inassimilables par l'ensemble de la chrétienté qui va se réunir donc sous l'autorité de Constantin à l'époque, mais Constantin ne préside pas. C'est bien normal que ce soit un légat pontifical qui y préside. Osius de Cordoue, qui est envoyé par le pape à l'époque, on lui dit, pour ses premiers conciles, on dit au pape qu'il ne faut pas qu'il se déplace. Il a quelque chose de beaucoup plus important à faire, c'est de garder les reliques de saint Pierre et de saint Paul à Rome. Et donc, il va envoyer des émissaires, des légats, et Osius de Cordoue, hein, qui est de la zone aussi occidentale, importante, parce que l'Espagne va avoir un rôle important avant qu'elle soit envahie par l'islam au 7e siècle. C'est aussi une zone d'influence. Donc Osius de Cordoue va avoir un rôle de suprématie, en quelque sorte, au cours de ce concile de Nicée, et qui va condamner cette pensée de Arius qui ne faisait finalement de Jésus qu'un homme divinisé,
mais qui nie la divinité, la nature divine.
Alors il nie
du Christ.
Il
en fait un être inférieur à Dieu.
Un être inférieur à Dieu, donc il reconnaissait que Jésus était divinisé, mais n'était pas d'origine divine. C'est-à-dire, c'était comme un homme qui avait été assompté par la divinité, qui était devenue l'égal de Dieu, mais sans être d'origine divine. Et donc, c'est contraire, bien sûr, à l'enseignement de la foi qui annonce qu'il y a dans la deuxième personne de la divinité le Verbe, et cette deuxième personne de la Trinité a deux natures, la nature divine qu'il partage avec le Père et le Saint-Esprit, et la nature humaine, assumer, bien sûr, mais sans supprimer la nature divine. Ce que faisait Arius, finalement. Il reconnaissait cette nature humaine, mais ne reconnaissait pas la nature divine du Christ.
Alors, après la période des pères dits anténicéens, avant le concile de Nicée en 325, il y a une autre période qui s'ouvre, qui va durer un peu moins d'un siècle et demi, qu'on appelle l'âge patristique, donc entre 325 et 451, concile de Chalcédoine. Qu'est-ce que c'est l'âge patristique ?
Alors, l'âge patristique, c'est l'âge d'or, si vous voulez, où la pensée a pu s'exprimer beaucoup plus facilement de par le fait qu'il n'y a plus les persécutions. Je vous rappelle qu'il y a eu comme 10 vagues de persécutions sous l'Empire romain qui s'est prolongée tardivement en Orient jusqu'en 323, donc même après l'avènement de Constantin en Occident. Donc, ça a été une période douloureuse de l'Église. On pouvait difficilement se réunir. Il y avait quelques conciles locaux, comme en Afrique du Nord, où il y avait un peu plus de liberté, mais dans l'ensemble, c'était difficile de se réunir. Et donc, il n'y avait pas cette possibilité, dans le fond, de pouvoir définir les choses. Ce n'est qu'avec le concile de Nicée qu'on a pu commencer à se réunir d'une manière plus universelle et d'une manière, en même temps, plus définitive, parce que le concile de Nicée a eu comme force de loi dans l'ensemble de la chrétienté. Alors, bien sûr, cela n'a pas empêché des soubresauts jusqu'en 451 de ce que c'était que cet arianisme qui avait quand même été fortement développé par les successeurs de Constantin, qui étaient tous ariens ou semi-ariens pour la plupart, et qui ont fait qu'il y a eu une grosse foire d'empoigne, si vous voulez, dans les décennies qui ont suivi Nicée en 325. Et c'est pour cela que seuls quelques hommes ont été mis, je dirais, en relief pour faire comprendre la véritable foi orthodoxe, catholique. Et il y a les Cappadociens, il y a saint Athanase d'Alexandrie, qui fait partie de l'ère d'Alexandrie, et puis saint Damas, par exemple, à Rome, qui sont ses pères qui aident à conserver la foi, je dirais, intègre, malgré les soubresauts de l'arianisme qui continue comme une espèce de flottement général dans l'épiscopat de l'époque. Donc on l'appelle l'âge d'or pour la bonne raison qu'ils sont arrivés à dépasser, dans le fond, ce courant d'hérésie qui avait des soubresauts comme avec Apollinaire de Laodicée ou d'autres. Et on peut dire qu'avec Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, Cyril de Jérusalem, Épiphane de Salamine, Ambroise, Diodore de Tars, Jean Chrysostome, Saint Jérôme et Saint Augustin, on a vraiment l'âge d'or des pères. Voilà.
Saint Jérôme qui avait été le premier traducteur en latin.
Premier traducteur
en latin la Vulgate.
De ce qu'on a appelé la Vulgate, n'ayant avant que des traductions partielles de la Vetus Latina, comme on l'appelait. Et Saint Jérôme donc va s'atteler à reprendre non seulement la Septante, qui était la traduction grecque, tout l'Ancien Testament et la transmission du Nouveau Testament en grec, mais va essayer de remonter aux originaux hébraïques de l'Ancien Testament. La Veritas Hebraica, c'est de lui, c'est de Saint Jérôme, et nous aurons comme fruit bien la fameuse Vulgate, qui va être honorée au Concile de Trente comme étant la traduction officielle de l'Église en Occident de la Bible totale.
Et puis, troisième âge des pères de l'Église, si on peut dire, après le concile de 451, les pères de tradition chalcédonienne. Alors ça va jusqu'au 8e siècle, en fait.
Alors, on va aller jusqu'au 8e siècle avec donc les derniers que je citais en Orient. Après Maxime le Confesseur, Jean Damascène, et puis en Occident, après donc Isidore de Séville, on peut aller pratiquement jusqu'à Bède le Vénérable, hein, qui est déjà un bénédictin. Donc vous voyez, on est déjà dans une ligne assez caractérisée d'une transmission qui se fait d'une manière monastique par l'étude, comme le demandait saint Benoît.
Si on se réfère à notre époque, quels sont aujourd'hui les pères de l'Église les plus importants, en tout cas ceux qui demeurent des références absolues pour les théologiens actuels notamment, et que l'on étudie encore beaucoup de nos jours? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a les quatre pères de l'Église latine d'Occident? On les a déjà cités, saint Jérôme, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone et Grégoire Ier.
Oui, alors chacun pour leur domaine, par exemple Grégoire le Grand, ce sera pour la morale, il reste une très grande référence de la morale. Augustin, c'est pour toutes les considérations de théologie, je dirais, dans la véritable identité de la Trinité, et déjà les premiers pas en christologie. Donc Augustin va être le père des pères en Occident, et il a aussi des commentaires des psaumes qui continuent toujours à être extrêmement étudier ses méditations sur l'histoire, la cité de Dieu. C'est un auteur considérable, saint Augustin. C'est vraiment la référence. Si vous lisez saint Thomas d'Aquin, par exemple, vous verrez que tout le temps, ce n'est pas Aristote qui est cité, mais c'est tout le temps saint Augustin. Je ne sais pas pourquoi on a fini par caractériser saint Thomas d'Aquin sous le titre de quelqu'un qui est un aristotélicien.
Prolonger la pensée d'Aristote.
En fait, c'est beaucoup plus saint Augustin.
C'est très réducteur.
C'est très réducteur. Saint Jérôme qui donne la manière, dans le fond, de développer l'exégèse littérale, de revenir au texte lui-même, et saint Ambroise, qui est un père de saint Augustin, c'est lui qui l'a baptisé, et qui est une référence au niveau de la liturgie, parce que la liturgie est un des grands lieux de la transmission patrologique, les hymnes, la considération de cet axiome qui dit que celui qui prie, dans le fond, transmet la vérité reçue par les hymnes. Et ça, c'est une chose importante de la grande tradition, donc de la patrologie. La patrologie passe aussi par la liturgie.
Est-ce qu'il y en a un, hormis ces quatre, que vous aimeriez peut-être mettre un peu plus en avant que tous les autres, qui aujourd'hui mérite qu'on s'intéresse à ses écrits et à sa pensée?
Alors, j'ai beaucoup étudié aussi les pères grecs, Athanase, Basile le Grand, Grégoire de Nazianze, qu'on appelle en Orient le théologien par excellence. Vous savez qu'on donne le titre de théologien à très peu d'hommes d'Église dans la tradition donc orientale. On le donne d'abord à saint Jean l'Évangéliste, puisque c'est le premier avec son prologue qui donne cette théologie descendante, cette théologie qui montre que tout part de Dieu et tout descend vers les hommes à travers l'incarnation et tout remonte après par la résurrection. Donc c'est le théologien par excellence. Puis vous avez Grégoire de Nazianze qui est appelé donc le théologien. Et plus tardivement, donc au XIe siècle, donc, ce sont d'autres théologiens qui prennent ce titre, mais qui sont moins déterminants. Donc je crois qu'il faudrait développer de nos jours ce retour aux pères orientaux pour nous aider à retrouver la parole œcuménique qui est nécessaire pour retrouver cette unité que voulait le pape Jean XXIII en réunissant le Concile Vatican II. Donc, des études profondes d'Athanase, Basile, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome seraient tout à fait utiles dans le but de l'unité des chrétiens.
On va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Édouard, d'avoir brossé ce tableau général des pères de l'Église, de nous vous avoir rappelé qui ils sont et ce qu'on leur doit. C'est un vaste monde que celui des pères. Et nous aurons l'occasion de prolonger cette série avec des émissions dédiées entièrement à certains d'entre eux. À bientôt donc. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Christophe Aubry. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.